Voix du Vent, le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'état d'esprit de Jougade aujourd'hui dans C'est pas du vent avec Navier Adjou, le théoricien du concept, et Thomas Landrin, qui l'incarne entre autres en France avec la Paillasse, son laboratoire communautaire en plein cœur de Paris. Alors nous l'avons défini, cet état d'esprit, dans la première partie. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, pour résumer, c'est faire mieux avec moins. Donc c'est complètement en phase, Navier Adjou, avec les contraintes environnementales.
Absolument, parce qu'effectivement, c'est assez intéressant quand on parle de Jougade, les gens disent c'est faire plus avec moins, et je les corrige en disant non, c'est faire mieux avec moins, pour mettre l'accent.
Vous me corrigez donc.
Voilà, exactement. C'est aussi mettre l'accent sur le fait qu'on peut faire plus avec moins, avec un esprit très capitaliste. Hein, donc, mais simplement faire mieux avec moins consiste aussi à s'assurer que on amène la valeur sociale et économique, tout en réduisant l'utilisation de ressources naturelles. Donc, effectivement, il y a un angle de durabilité qui est très très fort autour de ce concept-là.
Et qui s'impose un peu pour les innovateurs finalement.
Absolument. Je pense que, par exemple, un exemple classique que j'aime bien mentionner, c'est au Pérou, où ils ont inventé un panneau publicitaire qui convertit l'humidité de l'air en eau potable. Donc l'idée aussi, c'est, oui, il y a une rareté de ressources naturelles, mais il y a aussi l'abondance. Et c'est ça qui me fascine dans les pays émergents, c'est qu'ils sont capables d'utiliser, par exemple, le soleil pour générer l'énergie solaire, ou l'humidité de l'air, dans le cas de Pérou, pour générer de l'eau.
Thomas Landrin, j'imagine que ça vous intéresserait, vous aussi, de savoir s'il y a des laboratoires communautaires, par exemple, sur le continent africain.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui commence à apparaître en Afrique. On a les Fab Labs, qui sont en soi presque des laboratoires communautaires, qui sont plus dédiés au travail de la matière, de l'électronique. Et on a comme ça, par exemple, un Fab Lab qui marche très très bien au Togo, à Lomé.
Ah ben, on en parlait hier dans C'est pas du vent avec Jérémy Rifkin, justement.
Voilà, le Beau Lab, j'imagine.
Mmh, absolument.
Et donc c'est aujourd'hui en fait qu'on regarde les impacts possibles d'un laboratoire ouvert comme celui de la Paillasse. On s'intéresse aussi évidemment à l'agriculture et donc à l'aquaponie, à d'autres manières en fait de mettre en relation des espèces vivantes agronomiques et donc d'avoir comme ça peut-être un impact positif sur une culture locale, une manière de faire qui peut apporter peut-être même plus de ressources pas seulement alors dans les villes parce que c'est surtout ce qu'on connaît ici, mais également en fait chez des maraîchers ou chez les agriculteurs professionnels.
Donc s'il y a en ce moment des auditeurs en Afrique qui vous entendent et qui aimeraient vous contacter, ça vous intéresse?
Absolument, et on peut les mettre en contact avec des personnes qui sont déjà en Afrique, qui travaillent sur ces sujets-là. Oui.
Alors Navier Adjou, le continent africain est en pleine croissance économique, en pleine croissance démographique aussi, donc c'est vraiment un terreau formidable pour l'état d'esprit de Jougade.
Oui, absolument, et d'ailleurs la preuve, c'est que vous voyez maintenant les multinationales qui commencent à ouvrir de la boîte comme IBM à Nairobi, au Kenya. Il paraît qu'il y a une longue liste d'attente parmi les ingénieurs d'IBM de Japon et de l'Europe pour aller travailler justement en Afrique. Non pas parce que les technologies qu'ils développent là-bas sont plus intéressantes, c'est que les cas d'usage, c'est-à-dire les use cases, les applications possibles, les besoins qui vont répondre là-bas sont beaucoup plus intéressants. Et donc, quelque part, je crois qu'effectivement, tous les exemples qu'on a entendus sur cette émission, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ce sont des solutions toutes simples, mais qui répondent à des besoins vitaux dans le domaine de l'énergie, l'éducation, santé. Et ça, je crois qu'effectivement, l'Afrique va être, en fait, à mon avis, le laboratoire mondial d'innovation au Jougade.
Et l'Occident aussi est en train de s'y mettre. Les grandes entreprises et même les gouvernements s'y intéressent. On en parle juste après une petite pause musicale sud-africaine.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Pula yeta. s'échappe-là. Chien, chien, que ma coupe est à vous péri, que ma tchatcha, ma na vous péri, ma na haïtcha. Ochava, les raïs, ma serrure dans mes chiens.
Tamboulou dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de l'état d'esprit de Jougad, toutes ces innovations frugales qui émergent partout sur la planète. Alors ce sont des opportunités économiques pour permettre à leurs inventeurs de sortir de la pauvreté dans les pays en développement et émergents. Mais dans les pays occidentaux, le Jougad souffle aussi navire à joue, parce que finalement dans les pays occidentaux, on est de plus en plus aussi face à l'adversité.
Tout à fait. Vous voyez par exemple le fait qu'il y a la crise économique qui se prolonge. On voit les niveaux de chômage et puis la prise de conscience.
Pauvreté aussi,
absolument. Par exemple, les États-Unis, on a vu qu'entre 2006 et 2010, la classe moyenne a perdu 40% de son pouvoir d'achat. Il y a 70 millions d'Américains aujourd'hui qui sont sous-bancarisés. C'est presque le quart de la population américaine. J'habite en Californie, où il y a un grand problème maintenant de raréfaction d'eau. Donc, on s'excite effectivement qu'on a de gaz de schiste aux États-Unis. Mais c'est pas ça le vrai problème dans 5 ans, c'est qu'on n'a pas d'eau. Et pour un État comme Californie, qui est le cinquième producteur de denrées alimentaires, c'est un gros problème. Il faut apprendre à faire mieux avec moins. Donc ce sens de débrouillardise, système D quelque part, qu'on pensait était un peu péjoratif, hein, pas vraiment intéressant pour le Nord, ben, finalement devient en fait la façon de sortir de la crise avec peu de moyens.
Alors donc les gouvernements, hein, je le disais, s'y intéressent. Par exemple, vous avez été reçu par une conseillère de David Cameron, le Premier ministre britannique.
Absolument.
Ça c'est quand même surprenant.
Ben disons qu'ils n'ont pas de choix, parce qu'en fait c'est assez intéressant, parce que le gouvernement américain, le gouvernement britannique voit que finalement le coffre fort, enfin le coffre public commence à s'alléger, si je peux utiliser un terme diplomatique.
Oui, on voit ça en France voilà, aussi, on a les chiffres de la dette récemment.
Enfin, en France, je crois qu'on a, on le voit, mais on n'a pas encore pris conscience, je crois, malheureusement.
Ça vient.
Mais donc de ce fait, il y a un besoin grandissant en Grande-Bretagne justement pour assurer la même qualité de service dans le domaine de santé, mais c'est très connu quand même, ils sont très bons là-bas. La question maintenant, c'est comment faire mieux avec moins. Ils ont même publié un rapport en Angleterre que, en tant qu'habitant, enfin, en tant qu'Indien, qui vient d'ancienne colonie indienne, je n'aurais jamais vu de ma vie, je lirai un rapport publié par le gouvernement britannique qui s'appelle « Notre avenir frugal, les leçons à apprendre de l'Inde ». Donc c'est vraiment le monde à l'envers.
Retourne le monde de l'histoire, oui, c'est intéressant. Voilà. Et les multinationales aussi s'intéressent à cet état d'esprit. Alors dans votre livre, l'innovation de Jougad, redevenons ingénieux, là, vous citez plein de grandes entreprises, ça passe par Renault, Procter & Gamble et plein d'autres qui commencent à regarder ça avec beaucoup d'intérêt en se disant, tiens, peut-être qu'on se trompe depuis des années en fait.
Ben, pour deux raisons, les multinationales sont intéressées. Tout d'abord parce que la croissance va quand même venir des marchés émergents. Les trois grands pays au monde en termes consommateurs dans 10 ans, 20, enfin, à peine 15 ans, ce sera l'Inde, la Chine et le continent africain. Ils comprennent finalement qu'il faut utiliser une approche d'innovation qui est différente de celle qu'ils ont adoptée dans le Nord pour justement concevoir des solutions beaucoup plus abordables, plus accessibles aux populations là-bas. Effectivement, il y a Renault effectivement, qui est en train de développer la prochaine voiture en sud de l'Inde, justement en s'appuyant sur l'ingéniosité frugal des ingénieurs là-bas, dont, entre parenthèses, il faut citer l'âge moyen est de 29 ans. Donc, c'est aussi une population jeune. Exactement. Et deuxièmement, je crois que plus important, les multinationales comprennent que si elles ne commencent pas à adopter Jougad pour innover des solutions aussi en Occident, ils vont laisser en fait la place à des start-up ou des concurrents justement des pays émergents.
Donc, type Thomas Landrin aussi en France, qui avec son laboratoire arrive à récupérer des appels d'offres de la NASA quand même.
C'est vrai. C'est une autre histoire.
Mais c'est une histoire qu'on a envie de connaître parce que c'est surprenant. Dans un squat en banlieue de Paris, vous répondez à un appel d'offres de la NASA et vous gagnez.
Oui, absolument. La NASA avait collaboré avec une fondation américaine qui s'appelle Space Gambit qui va encourager justement l'innovation bottom-up qui vient en dehors des institutions. Et nous, on a répondu et on a été sélectionné. On a été le seul laboratoire européen à être sélectionné. Tous les autres étaient aux États-Unis. Et on a eu comme ça, alors c'est pas forcément rien, mais on a eu 10 000 dollars pour pouvoir fabriquer un bioréacteur. Donc un bioréacteur, c'est une machine qui sert à contrôler en fait la croissance de micro-organismes pour faire la bioproduction. Alors c'est beaucoup de termes compliqués, mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ça nous permet en fait de utiliser une propriété extraordinaire du vivant, c'est de transformer la matière. Si on lui donne du sucre par exemple, et ça nous donne des pigments dans le cadre de l'encre, ça peut également donner de la cellulose, ça peut nous donner en fait plein d'autres choses, et ça peut également traiter les déchets. Voilà. Donc ici, il s'agissait en fait de donner un espoir pour les futurs vaisseaux spatiaux de pouvoir retraiter facilement leurs déchets, et il fallait commencer déjà par se réapproprier la technologie. C'est pour ça qu'on leur a proposé un bioréacteur low cost, 100 fois moins cher.
Alors ça a peut-être aidé aussi justement. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de détourner l'état d'esprit de Jugad Navirajou d'au moins trois principes qui sont parmi les six principes, hein, si c'est justement récupéré par les gouvernements et les multinationales cet état d'esprit, puisque dans les principes, il y a viser la simplicité, intégrer les marges et les exclus et suivre son cœur. Bon, on ne peut pas dire que ce sont les principes qui gouvernent les multinationales habituellement.
Ben, nous avons pris le choix parce que, pour être très direct, 70% des jeunes en Occident veulent aller travailler pour des entreprises qui sont à la fois responsables socialement et sur le plan environnemental. Donc il est clair qu'effectivement les multinationales le font non seulement parce que justement pour gagner des consommateurs dans les pays émergents, mais aussi pour attirer le talent. Donc moi je crois que finalement Jugad représente justement l'état d'esprit de la nouvelle génération montante dans le monde en tant que futur employé et futur consommateur. Donc quelque part les multinationales n'ont pas de choix.
Elles n'ont pas de choix, mais on sait bien que l'objectif d'une multinationale, c'est de faire l'argent. Cela dit, un innovateur aussi, hein, c'est pas une honte de faire de l'argent. Mais cette idée de réseau, on partage, peut-être que les réseaux sociaux sont un extraordinaire outil aussi pour partager ce que l'on invente, voir comment on fait en Inde, comment on fait au Canada, comment on fait en Amérique du Sud, et du coup devenir plus fort à plusieurs. Mais ça fait un petit peu, ça donne un petit peu la naissance de contre-pouvoir. Ça aboutit à la naissance de contre-pouvoir.
C'est vrai. Et en même temps, il ne faut pas non plus oublier que les réseaux sociaux et les réseaux d'innovation animés par justement des développeurs indépendants, ce qu'on appelle des hackers des fois, souvent les gens sont préoccupés par le fait qu'effectivement ils peuvent avoir un détournement par les multinationales. Et il y a un commentaire qui a été fait par justement, il y a un entrepreneur en San Francisco qui est en train de lancer justement des satellites qui vont couvrir trois quarts de la planète qui ne sont pas encore couverts par les satellites. Ça s'appelle NanoSatisfy. Et le dit très bien. Il dit finalement, un multinational peut prendre une de nos technologies et s'approprier, mais le temps qu'ils le mettent en place sur le plan commercial, on sera des années-lumière devant eux. Et c'est ça le pouvoir des réseaux ouverts, c'est qu'ils peuvent innover plus vite et plus agile et moins coûteux que les multinationales.
Donc, à partir de quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir rentrer dans un nouveau système qui sera donc frugal, donc plus économe en ressources, donc ça c'est bon pour l'environnement, et aussi c'est bon pour l'économie, puisque finalement ça embauche plus de gens avec une répartition des bénéfices vraiment de façon locale. À partir de quand est-ce qu'on peut envisager un basculement, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt et utopique comme question?
Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'en Europe de l'Ouest, je suis de Californie, je passe beaucoup de temps maintenant en Europe, parce que je pense que l'Europe de l'Ouest et déjà cette année, je dirais plus ou moins, est en train de basculer dans ce modèle-là. Les États-Unis, ça va prendre un peu plus de temps.
Enfin, vous dites ça au moment, la semaine où on examine la transition énergétique en France, et on voit que les grands énergéticiens sont bien accrochés sur leur siège. Hein,
Je pense qu'en Europe de l'Ouest, si vous voulez, c'est un peu schizophrénique. Effectivement, d'un côté, je dirais les grands décideurs politiques et même quelques décideurs dans le monde économique s'accrochent quand même à un modèle traditionnel, hein, ces grands projets très top-down, très coûteux. Et en même temps, il y a aussi des gens comme Thomas Landrin qui sont en train en fait de galvaniser un nouveau mouvement beaucoup plus bottom-up. Donc il va y avoir une espèce de tension pendant un moment où les gens au pouvoir auront du mal à lâcher prise, hein, et accepter ce nouveau paradigme d'innovation qui est beaucoup plus bottom-up. Mais éventuellement, je crois que c'est les consommateurs qui vont voter, comme j'appelle, avec l'argent. Et c'est ça qui va accélérer la bascule.
Alors, au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu que l'état d'esprit de Jugad est en pleine effervescence, Corentin de Châtel-Perron nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur et vous avez fondé l'initiative Nomades des Mers. Alors, c'est le résultat d'une grande aventure. On n'a pas le temps, on arrive à la fin de l'émission bientôt, d'expliquer tout votre parcours. Mais en gros, Nomades des Mers, ça consiste en quoi?
Et ben en fait, c'est un peu dans le même esprit que justement Navirajou, c'est un très bon ambassadeur pour nous, et puis ce que fait Thomas avec la paillasse aussi. on monte un laboratoire de recherche collaboratif sur les low-tech. Alors, ce qu'on appelle les low-tech, c'est à la différence de high-tech, c'est tous les systèmes qui répondent à un besoin de base, donc l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, aux matériaux de construction, avec les moyens du bord. Donc, comment répondre aux besoins de base avec les moyens du bord? Et on s'est dit que il y avait beaucoup de recherches sur les high-tech, mais très peu sur les low-tech. On a essayé de comprendre pourquoi, et en fait, la réponse est simple, c'est que dans la recherche pour les high-tech, il y a de l'argent. Et au final, la plupart des chercheurs dans le monde font de la recherche pour même pas 10% des gens de la planète. Et à l'inverse, sur les low-tech, il y a très peu d'argent parce que aussi, il n'y a pas les moyens financiers de les faire. Et on s'est dit que depuis quelques années, grâce à tout ce qui est recherche collaborative, exactement comme ce que fait la PAYAS, il y avait moyen de faire de la recherche pas chère. De, en fait, rassembler, de fédérer des chercheurs ou des professionnels ou des bricoleurs du dimanche et de les mettre à travailler ensemble sur des challenges low-tech. Donc on a par exemple dans les low-tech le frigidaire qui n'utilise pas d'électricité dont parlait Navi tout à l'heure, où il y a des désalinisateurs solaires, il y a des moyens de recycler des bouteilles plastiques pour faire d'autres objets, il y a l'histoire des tôles en recyclant du plastique dont parlait
Anne Barbery,
merci, etc. Et donc ce qu'on lance, c'est une plateforme sur internet sur laquelle on liste 50 challenges de recherche, donc qui sera par exemple produire de l'énergie avec des algues, qui sera faire de l'encre avec des algues, là je m'adresse à Thomas ou etc. Et on s'adresse donc à n'importe quel MacGyver du monde entier, à des chercheurs high-tech comme des bricoleurs du dimanche, pour qu'ils répondent à ces challenges en nous envoyant des vidéos où ils présentent leur système. Et nous, avec un jury de spécialistes, on sélectionne les systèmes les plus intéressants et on va les inviter pour une grande expédition maritime autour du monde sur un grand bateau où on va tester toutes ces low-tech. Et donc le bateau, au fur et à mesure qu'on va inviter tous ces inventeurs, va devenir de plus en plus autonome en eau, en énergie, en alimentation. Et on va s'arrêter dans plein d'endroits dans le monde pour diffuser au maximum ses connaissances.
Alors, où est-ce que l'on peut participer si on veut répondre à votre appel à projet?
Sur nomadesdesmers.org. Et donc, on invite tout le monde, tous les MacGyvers du monde, à nous rejoindre pour commencer ces recherches collaboratives.
Et les MacGyvers de tous les continents, puisque par principe, votre bateau va aller partout.
Ben voilà, et c'est aussi ce que prône Navi, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges de connaissances. C'est en général, ça va de l'Occident. Les innovations sont créées, là où il y a de l'argent en Occident, vers les pays du Sud, et que non, en fait, il y a des innovations qui naissent de partout et il faut partager tout ça.
Et le périple est déjà imaginé?
Ben oui, c'est un tour du monde pour lequel on va passer par l'Afrique de l'Ouest d'abord, le Sud, enfin ensuite Madagascar, l'Inde, l'Indonésie, et voilà, dans ce sens-là.
C'est très excitant et l'on va vous suivre. Merci à tous les deux d'être passés dans C'est pas du vent. Corentin de Châtel-Perron, nous avons hâte de vous suivre. L'Esprit de Jogad, c'est un livre, un site. Vous retrouverez toutes ces coordonnées sur la page internet de l'émission www.rfi.fr.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, l'esprit de Jougade, la participation collaborative, il y en a bien besoin pour limiter l'ampleur des changements climatiques. Dans le domaine des transports par exemple, responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre mondial, décryptage avec Pierre Radan.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors, il y a de nombreux secteurs économiques dans le monde. Il y a l'agriculture, l'industrie, l'habitat, le secteur électrique et le secteur des transports. Et ce secteur-là est très important quand on parle des changements climatiques parce qu'il émet beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, on va essayer d'y voir clair avec vous. Quelle quantité, par exemple, ce secteur émet?
Alors, c'est très variable selon les pays, mais c'est entre 20 et 40%, et y compris d'ailleurs dans des pays en développement. Le chiffre de 40%, la France est tout proche de ce chiffre-là, mais aussi un pays comme le Sénégal. Donc, c'est quelque chose de très très important dans les différents pays, et c'est le secteur qui va, dans le futur, changer le plus. Pour la raison très très simple, c'est qu'il est à 95% dépendant du pétrole. Et à partir du moment où on utilise des carburants pétroliers, bien évidemment, on émet des gaz à effet de serre. Et donc, on a un secteur des transports qui, en plus, est à croissance très très forte. Il croît de 3% par an. Il y y a maintenant plus d'un milliard de voitures dans le monde, avec une répartition qui est très très inégale. On a 600 voitures pour 1000 habitants en France. En Chine, il y en a 7 fois moins. Et le parc automobile chinois croît bien sûr très très vite. Et en Afrique subsaharienne, eh bien le taux de voitures est de 40 fois inférieur à l'Union européenne. Donc on voit bien que tous ces pays en développement, qui ont d'ailleurs des infrastructures de transport collectif qui sont globalement très faibles. La voiture est essentielle. En Afrique, la grande majorité des déplacements se fait encore à pied. Donc on a un secteur en forte croissance avec le développement maintenant des économies émergentes et des pays en développement, bien sûr l'accès au transport, l'accès à la capacité de ce déplacement, d'aller vendre ses produits sur le marché, tout ça est tout à fait essentiel.
Mais une voiture émet beaucoup de gaz à effet de serre.
Oui, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu une voiture dans votre vie, alors je vais vous décrire ce que c'est qu'une voiture. Ça pèse en moyenne une tonne. D'ailleurs, il y a 30 ans, c'était à peu près 600 kilos. Les voitures connaissent un certain embonpoint d'une année sur l'autre. Et son matériel, finalement, pèse très très peu quand on regarde ces sujets-là. Une voiture va consommer dans sa vie 6 fois plus de carburant que son poids. Donc en fait, c'est la partie consommation qui pèse, c'est pas l'investissement initial dans le véhicule. Et puis de l'autre côté, ce carburant, quand vous allez le brûler, il va se transformer en gaz carbonique. Et une voiture émet dans sa vie 16 fois plus de gaz carbonique que son poids.
On a du mal à imaginer ce que ça représente.
Oui, alors pour prendre une image de carte postale que dans différents pays les uns pourront interpréter, vous voyez l'Arc de Triomphe à Paris. Eh bien, le volume de l'Arc de Triomphe, c'est ce que émettent 5 voitures seulement pendant leur vie. Donc on est sur des quantités de gaz, bien évidemment, tout à fait considérables. Donc il va falloir changer tout ça, sachant que, vous le comprenez bien, la liberté de se déplacer et puis les échanges économiques, maintenant dans une économie mondialisée, poussent au transport. Encore une fois, les transports deviennent de plus en plus importants dans nos vies.
Mais on a quand même cette obligation de diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 2 d'ici 2050. Donc comment on va faire ?
Alors, on va faire avec des changements sur les véhicules. Voyez qu'on va probablement, pour un certain nombre d'usages, avoir des véhicules de taille plus réduite. Ensuite, derrière, on va changer la motorisation des véhicules. On va abandonner, ou en tout cas se dégager petit à petit du pétrole, avec des véhicules électriques qui sont utilisés sur courte de distance, donc essentiellement dans les zones urbaines. Des véhicules hybrides, donc qui maintenant sont utilisés pour des voyages plus longue distance, avec la possibilité pour les véhicules hybrides de les rebrancher sur le réseau électrique pour recharger à un moment d'arrêt. Donc la part de l'électricité va augmenter, la part du pétrole va diminuer. Bien évidemment, changer le type de moteur des véhicules ne va pas suffire. Il va falloir diversifier nos modes de transport. Sur les courtes distances, très courtes distances, utiliser le vélo, utiliser davantage les transports collectifs, par exemple à Paris, vous avez à peine 40% des ménages qui ont une voiture. Parce que vous avez, à l'intérieur de la ville, une telle qualité de transport collectif que les gens, bien évidemment, vont l'utiliser, je dirais, très très facilement et éviter, bien sûr, aussi les embouteillages. Et puis, le train pour le ville-à-ville. Et ces mutations sur les véhicules, c'est tout à fait essentiel pour les pays en développement. Alors, et les pays émergents, une ville comme Pékin ou une ville comme Alger ou une ville comme Dakar sont aujourd'hui avec d'énormes problèmes de pollution.
Il n'y a pas que les voitures, hein, on prend l'avion aussi.
Oui, alors aujourd'hui, vous avez une augmentation du trafic aérien qui est de l'ordre de 4% par an dans le monde, avec un énorme développement du tourisme à longue distance, notamment pour changer d'hémisphère, par exemple pour aller chercher l'été en plein hiver. Et donc, on a là une évolution très importante. Alors, on améliore les avions, mais c'est surtout les pratiques de tourisme qui vont devoir changer. Il va falloir qu'on revienne sur du tourisme de long séjour, que le transport à l'autre pays du monde, qui permet de comprendre d'autres cultures, qui permet d'apprendre d'autres langues, qui est essentiel pour le plaisir de nos vies, eh bien, il va falloir qu'on le combine avec une certaine modération sur les transports. Encore une fois, le plus grand plaisir possible, mais avec un petit peu moins de transport, en tout cas pas de navette tout le temps.
Et puis, il y a les marchandises.
Alors, il y a les marchandises. Là aussi, les évolutions vont être considérables. Les camionnettes vont passer à l'hybride, bien évidemment. Et puis, sur les camions, là, on va profondément changer la manière en termes d'énergie, on va massivement passer au gaz. Alors, pour pas passer à l'électricité, parce qu'il faudrait des autonomies trop grandes, on va passer au gaz. Probablement aussi que la marine va passer au gaz.
Oui, parce que l'essentiel du transport des marchandises aujourd'hui se fait par les voies maritimes.
Ah oui, oui, c'est tout le commerce international, votre écran plat, vos chaussettes qui viennent de Chine, tout ça, bien évidemment, utilise des bateaux. Donc, on va améliorer tout ça, et donc on a de vraies perspectives de progrès, avec un point qui est tout à fait essentiel, qui est l'arrivée des nouvelles technologies de communication. Les applications qu'on a sur nos téléphones ou qu'on a sur Internet permettent de concilier, de combiner, d'avoir des stratégies intelligentes pour passer d'un mode de transport à l'autre, et donc, de ce point de vue-là, avoir le plaisir du déplacement, mais en améliorant les choses.
Merci Pierre Radan.
Merci Anne-Cécile.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Pour réagir ou nous écrire, c'est pasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, hashtag c'est pas du vent. Demain, nous avons rendez-vous avec l'essayiste américaine Naomi Klein que nous avons reçue à l'occasion de la publication de son dernier livre « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique » publié chez Actes Sud. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.